Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la polémique autour de la modification de la Constitution au Gabon. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a reconnu l'indisponibilité temporaire du président Ali Bongo, hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre. Or, ce cas de figure d'indisponibilité temporaire n'est pas prévu par la Constitution. Du coup, les magistrats de la Cour ont décidé d'ajouter un alinéa permettant ainsi d'éviter une vacance du pouvoir et d'organiser dans les 60 jours une nouvelle élection présidentielle. L'opposition est vent debout, elle dénonce un coup de force et ce week-end, le président de la Commission de l'Union africaine a rappelé dans un communiqué son attachement au strict respect de l'ordre constitutionnel. L'Union africaine qui devrait d'ailleurs envoyer une mission d'information à Libreville. Alors que vous inspire cette polémique? Est-elle justifiée? Vous êtes nombreux évidemment à souhaiter prendre la parole. Le débat a déjà commencé sur notre page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Je lirai évidemment quelques commentaires tout à l'heure pour alimenter la réflexion et d'ici le lancement du débat sur les ondes de RFI, continuez à nous rejoindre 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité et nous allons justement commencer avec une question sur la constitution gabonaise. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Port-Gentil, justement, au Gabon. On vous écoute.
Bon, alors, au Gabon, la Cour constitutionnelle a modifié la loi fondamentale, qui est normalement, en fait, une prérogative du Parlement ou d'un référendum. Mmh. Alors, moi, j'ai deux questions. J'aimerais savoir, a-t-elle le droit de le faire? Et la seconde question, c'est de savoir pourquoi n'a-t-elle pas déclaré la vacance? Déjà que dans la loi, il y a une petite phrase qui est très importante, qui précise que quelle que soit la raison, je crois, pour quelque cause que ce soit, c'est cette phrase qui est très importante.
Oui.
Pour quelque cause que ce soit, on doit déclarer la vacance.
Alors, vacance du pouvoir, la Cour constitutionnelle a surtout constaté l'indisponibilité temporaire du chef de l'État, ce qui n'est pas évidemment la même chose pour vous aider à bien comprendre, Franck, et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous poser ces mêmes questions sur la page Facebook de l'émission. Yves-Laurent Goma, correspondant de RFI au Gabon. Bonjour Yves-Laurent.
Bonjour Juan.
Merci d'être en direct avec nous de Libreville. Expliquez-nous, dites-nous si la Cour constitutionnelle a le droit de réviser la Constitution.
Ouais Juan, il faut dire à Franck que le titre 12 de la Constitution consacré à la révision de la Constitution ne mentionne nulle part un droit quelconque à la Cour constitutionnelle de modifier la Constitution. Il n'y a que le président de la République et le Parlement qui ont ce droit, mais dans ce cas, ce droit est très encadré. La Constitution peut être révisé par référendum ou par le Parlement, comme a dit Franck. Mmh. Là aussi, il faut atteindre un certain quorum. Dans une interview à RFI, la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Bourangeau, a expliqué que la loi permet à la Cour constitutionnelle d'ajouter une disposition temporaire. Le problème, c'est que Madame Bourangeau a été extrêmement vague. Elle n'a pas cité la loi en question, encore moins son article. Oui. Bon, il se peut qu'elle a fait une omission.
Alors, elle n'a pas cité l'article, mais c'est vrai qu'elle a dit à votre micro que la Cour avait pris cette décision pour régler une situation qui n'avait pas été prise en compte au moment de l'adoption de la Constitution pour permettre de régler provisoirement une situation. Donc, il s'agit pour l'instant, d'un alinéa provisoire. Et elle-même le disait à votre micro, Yves-Laurent Goma, au moment de la révision de la Constitution, dans quelques mois ou dans quelques années, on pourra prendre une décision définitive s'agissant donc de l'indisponibilité temporaire. Franck nous posait une autre question pertinente. Pourquoi la Cour constitutionnelle n'a-t-elle pas déclaré une vacance du pouvoir et pourquoi a-t-elle préféré donc constater l'indisponibilité temporaire du chef de l'État?
Alors, nous sommes là dans l'article 13 de la Constitution. Tout le monde parle de cet article sans l'avoir lu et relu. Ce que l'on sait, c'est que cet article a été appliqué en 2009 suite au décès du président Omar Bongo Ondimba. C'était le cas d'un empêchement définitif. Or, pour le cas d'espèce, on n'a aucune preuve de vie ou de décès du président Ali Bongo. Toujours est-il qu'il est empêché pour quelque cause que ce soit. C'est la Constitution qui le dit. Donc, ces pouvoirs devaient être provisoirement exercés par le président du Sénat. C'est écrit aussi dans le même article 13 de la Constitution. À ce niveau, la Cour constitutionnelle a affirmé que cette disposition a une lacune sans la nommer. Un homme politique chevronné a supposé que la lacune décelée par la Cour constitutionnelle pourrait être le cas où le président est empêché pendant quelque temps, réapparaît en pleine forme. Il y a probablement un flottement à ce niveau, car cet article ne dit pas clairement si le président qui réapparaît a encore le droit ou pas de récupérer ses pouvoirs. Peut-il, oui ou non, poursuivre son mandat? Les constitutionnalistes devaient s'emparer de ce débat pour davantage éclairer l'opinion, parce que l'on note que le dernier alinéa de l'article 13, lui, ne pose aucun problème. Il dispose qu'en cas d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, le président du Sénat est investi pour organiser des élections dans un délai de 30 à 60 jours et lui ne peut pas être candidat.
Effectivement, on aura l'occasion d'en débattre avec de très nombreux auditeurs dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Yves-Laurent Gomard de toutes vos explications. Franck, on vous salue, on vous souhaite une bonne journée à Port-Gentil. Il est 9h17 à Paris, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur l'Érythrée. Bonjour Arfang.
Bonjour, Juan Gomez, comment vous allez?
Bah écoutez, très très bien, merci de nous appeler du Sénégal. Quelles sont vos questions?
D'abord, permettez-moi de rendre un hommage solennel à un de vos collègues qui est décédé et qu'on est devenu franchement orphelin de sa belle voix. Il s'agit de Laurence Adou.
Très bien, bah écoutez, nous pensons régulièrement à lui évidemment, et très souvent quand on rentre dans ce studio, on pense évidemment à Laurent qui nous a quittés il y a maintenant un an et demi. Merci de votre pensée Arfang. Vous aviez, et on revient voilà, à l'actualité, vous aviez des questions sur l'Érythrée.
Affirmatif. Les Nations Unies ont levé les sanctions contre l'Érythrée après 9 ans de mesures répressives. Quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir sur la situation politique du pays?
Oui, effectivement, c'était des sanctions qui étaient en vigueur depuis 2009, non pas pour la situation des droits de l'homme, mais pour le soutien présumé de l'Érythrée à la mouvance djihadiste somalienne. Bonjour Sébastien Némette.
Bonjour Juan et bonjour Arfang.
Correspondant permanent de RFI dans la région en Afrique de l'Est, c'est donc à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté cette résolution qui lève l'embargo sur les armes, qui lève également toutes les interdictions de voyage, le gel d'avoir, les autres sanctions visant l'Érythrée. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour l'Érythrée. Pour autant, est-ce que cette décision de l'ONU, Sébastien Némette, aura des répercussions sur la situation politique de ce pays, l'Érythrée, qu'on surnomme, alors peut-être de façon catégorique, mais qu'on surnomme tout de même comme la Corée du Nord d'Afrique.
Oui, faut pas se le cacher, hein. L'Érythrée, c'est une dictature. Le président Isaias Afewerki est au pouvoir depuis l'indépendance en 93. Il n'y a pas eu d'élection depuis presque 20 ans. L'Assemblée nationale s'est pas réunie depuis 2002. La constitution n'est pas appliquée. Il n'y a pas d'opposition. Les opposants sont tous soit en prison, soit morts, soit en exil. Maintenant, pour revenir à la question, quelles conséquences politiques? C'est une excellente question à laquelle j'ai pas de réponse, Juan, et à laquelle personne n'a de réponse. On n'en sait rien. Le pays est extrêmement fermé. Impossible de savoir ce qui va se passer. Donc, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de politique fiction, Juan, avec différents scénarios. Une première théorie, disons, positive, un peu idéale. On peut imaginer qu'après la paix avec l'Éthiopie, la levée des sanctions, Isaias Afewerki autorise la démocratie à émerger. La constitution pourrait être appliquée, des opposants rentreraient au pays. On pourrait, qui sait, organiser des élections libres dans un système multipartite. Afewerki pourrait même décider de se retirer. Il a quand même 72 ans. Et puis, grâce à la paix avec les voisins, l'économie érythréenne sortirait de l'isolement, les milliers d'Érythréens qui ont fui le pays commenceraient à rentrer, etc. Bon, tout cela est possible. Très peu probable quand même, Juan.
Oui, les experts penchent plutôt pour un régime dictatorial, un régime qui garde encore un caractère dictatorial, sans moins ce qui ressort dans les dernières analyses qu'on a pu entendre ici et là.
Oui, déjà parce que pour l'instant, on voit aucun changement, même depuis la paix avec l'Éthiopie signée il y a quelques mois. Au contraire, avec l'ouverture de deux points frontières récemment avec l'Éthiopie, des Érythréens en profitent pour quitter le pays. Depuis septembre, 14 000 personnes ont fui le territoire selon l'ONU. Un ancien ministre des Finances a été arrêté il y a 2 mois après la parution d'un livre critique sur le pouvoir. Ensuite, il faut bien rappeler que tout le règne du président Afewerki n'a eu qu'un seul but, c'est la survie de son pouvoir. Alors s'il assouplit son autorité, ça pose plein de questions. Est-ce qu'il va y avoir des contestations? Qui rendra des comptes pour les crimes du régime? Néanmoins, il a quand même toujours justifié son contrôle absolu par la tension avec le voisin éthiopien, la guerre avec l'Éthiopie. Maintenant qu'il y a la paix et la levée des sanctions, Isaias Afewerki n'a plus de vraie justification pour maintenir son régime autoritaire. Donc il va peut-être devoir trouver une autre façon de gouverner, parce que ces événements suscitent beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes au sein de la population. Il est possible qu'il accorde graduellement des libertés limitées, et ça pourrait inclure la fin du fameux service militaire illimité.
Oui, dont tous les hommes et toutes les femmes du pays sont obligés de faire. Ils sont tous mobilisables jusqu'à l'âge de 50 ans. Ça signifie quoi? Que la conscription obligatoire pourrait disparaître?
En tout cas, aujourd'hui, elle n'a plus de justification officielle. Je rappelle qu'elle dure en théorie 18 mois, mais qu'en réalité, ça a pu durer des décennies. Les conscrits remplissent des tâches militaires, mais pas seulement. Ils font des travaux agricoles, de construction, pour un salaire de quelques dizaines d'euros par mois, et un travail qui ressemble à de l'esclavage moderne, extrêmement dur, dénoncé par les défenseurs des droits de l'homme. Et ceux qui tentent d'y échapper sont enfermés dans des conditions inhumaines. Et c'est ce service militaire obligatoire et limité qui est la principale cause de l'exode des Érythréens, 5000 personnes qui fuiraient le pays chaque mois. Donc sans conscription, certains vont peut-être rentrer au pays, retourner chez eux, chercher un emploi dans les villes. Il pourrait y avoir une sorte d'exode inverse, si on est vraiment optimiste, Juan. Mais il y a quand même plus de chances que les gens qui sont dans les camps de réfugiés à l'étranger, ils restent pour un moment, le temps de voir comment évolue le pays. Ils ont tout risqué pour fuir, donc ils veulent pas se rejeter dans la gueule du loup, entre guillemets. En tout cas, si le pouvoir ne desserre pas l'étau, ça pourrait là aussi entraîner des frustrations au sein de la population, qui a subi les privations pendant que le pays était en guerre, et qui pourrait pas comprendre les privations en temps de paix. Ça pourrait libérer des forces, entre guillemets, comment les citoyens vont réagir. Bon, là, le temps le dira, là encore, je n'ai pas de réponse, mais il y a peut-être là une sorte de danger social, danger populaire pour le président Afewerki, Juan.
L'analyse de Sébastien Emmett, correspondant permanent de RFI, dans la région en Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique. Merci à vous, Sébastien. Bonne journée, Arfang. Continuez à nous écouter à Dakar, sur les 92 FM. Nous avons contacté ce matin, pour vous répondre à quelques questions sur le Brexit, Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni, l'accord sur le Brexit conclu par la Première ministre Theresa May avec l'Union européenne a suscité plusieurs questions au standard. C'est vrai que on a du mal à s'y retrouver, on s'y perd un tout petit peu, le sujet est un peu compliqué, donc les auditeurs évidemment eux aussi veulent comprendre. Lassana nous appelle de Bamako. Bonjour Lassana.
Bonjour Anne, bonjour à tous les éditeurs et bonjour à votre équipe de rédaction.
Merci, nous vous écoutons.
Merci Anne. Après sa démission, le ministre en charge du Brexit, Dominic Raab, a annoncé qu'il ne pouvait pas soutenir en conscience les termes proposés pour la sortie de l'Union européenne. Et moi j'ai des questions, je veux savoir quels sont les contenus de ces termes qui ont contraint le ministre à la démission et qu'en est-il de l'Irlande du Nord dans la situation avec susciter beaucoup de tensions au sein de l'Union.
Oui, l'Irlande du Nord qui est au cœur des discussions sur le Brexit. Catherine Mathieu, au total, ce sont 4 ministres et secrétaires d'État qui ont démissionné la semaine dernière, dont effectivement le ministre du Brexit. Pourquoi a-t-il démissionné?
Alors, il a démissionné, nous a-t-il expliqué dans la lettre de démission qui a été rendue publique, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui a été décidé pour ce qui concerne l'Irlande. En particulier, il craint que l'Irlande reste pour toujours dans la même union douanière que l'Union européenne et qu'à terme, ça pose problème pour l'intégrité du Royaume-Uni. Et il y a actuellement dans l'accord tel qu'il a été proposé par Theresa May et l'Union européenne, la possibilité que le Royaume-Uni reste dans une période de transition entre fin mars 2019, le jour où il aura quitté l'Union européenne, et la fin 2020. Pendant cette période, l'Irlande et du Nord et le Royaume-Uni resteront dans l'union douanière avec l'Union européenne. Mais s'il n'y a pas de solution trouvée pour éviter de rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, l'ensemble du Royaume-Uni pourrait rester dans l'union douanière avec l'Union européenne sans date limite. Mmh. Et ça, Dominique Raab et un certain nombre de Britanniques favorables au Brexit étaient d'accord sur l'idée qu'on mette en place une période de transition, mais disaient qu'il faudrait, en tout cas, en ce qui concernait le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, que cela soit de façon temporaire, qu'il y ait une date qui soit inscrite dans l'accord. Or, il n'y a aucune date. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on lit l'accord, et qu'on voit que depuis maintenant de nombreux mois, les discussions ont été très très difficiles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour trouver une solution à cette question irlandaise, on peut se dire aujourd'hui que très probablement le Royaume-Uni resterait dans l'union douanière. Ouais. Et ça, les Brexiteurs ne le souhaitent pas.
Évidemment.
Parce qu'ils souhaitent pouvoir reprendre le contrôle.
J'entends bien Catherine Mathieu, mais je vais vous poser une question qui va vous sembler naïve. Dominique Raab, qui était donc le ministre du Brexit, qui a donc démissionné, ce n'est pas lui qui, au sein du gouvernement, est chargé de négocier avec l'Union européenne ?
Si, tout à fait. C'était lui qui était chargé de négocier avec l'Union européenne. Mais à l'intérieur du gouvernement britannique, il y a des voix assez différentes sur ce qu'il faut faire en matière de Brexit. Il y a d'ailleurs des ministres qui sont pour rester dans l'Union européenne, il y a des ministres qui sont pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, et certains avec des positions plus ou moins dures. Et Dominique Raab est un Brexiteur, et il avait la position selon laquelle il fallait trouver, en ce qui concerne l'Irlande, la raison pour laquelle il a démissionné, une solution temporaire, mais qu'il fallait dire clairement que le Royaume-Uni, dans un traité, allait sortir à un moment donné, à une date fixée, de l'union douanière et ne risquait pas de se retrouver pour toujours dans cette union douanière.
Ouais. Catherine Mathieu, reste avec nous, il nous reste à peine 2 minutes. On va répondre, en tout cas apporter un premier élément de réponse à Alpha qui nous appelle de Conakry. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons rapidement.
Juan, certains députés réclament une motion de défiance contre Theresa May. Moi, j'aimerais savoir dans quelle mesure pourront-ils mettre en place cette motion de défiance et que comptent-ils obtenir d'autres s'ils parviennent à renverser l'actuel gouvernement.
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Catherine Mathieu, en une petite minute. Est-ce que Theresa May peut tomber?
Oui, elle peut tomber, mais en ce qui concerne la question de votre auditeur, il faudrait que les parlementaires soient au moins 48 à demander cette motion de défiance. Hier, ils étaient 26 à avoir signé.
Combien ?
26. À la date d'hier. Mmh. Il semble difficile qu'en fait 48 signent actuellement pour une motion de défiance. L'objectif de cette motion de défiance, ce serait en fait de faire tomber le gouvernement britannique, soit qu'un nouveau, enfin, et très probablement, des élections générales seraient organisées. Donc c'est aussi pour cela que les parlementaires conservateurs hésitent à signer cette motion de défiance, pour ceux qui seraient tentés de le faire, parce que s'il y a de nouvelles élections, rien ne garantit qu'un gouvernement conservateur serait élu.
Et se posera la question, qui pour remplacer Theresa May ? Pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans les rangs des conservateurs, si je ne m'abuse.
Dans les rangs des conservateurs, non. Et oui. Du côté des travaillistes, Jeremy Corbyn aimerait bien pouvoir remporter des élections générales anticipées.
Merci beaucoup Catherine Mathieu d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à nos auditeurs, notamment Alpha et Lassana. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Alpha, je sais que vous aviez une dernière question, vous l'avez posée. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne, mais c'est promis, nous vous rappellerons et vous aurez toutes vos explications. Bientôt 9h30 ici à Paris, on va retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient, c'est promis, dans 10 minutes pour notre débat consacré à la modification de la Constitution au Gabon.